qu'à ça. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André Dumbuy, au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parole aux auditeurs. Nous présentons nos excuses pour les retards avec lesquels nous venons de commencer cette émission. Ce matin, nous parlons de la démission de Vital Kamerhe et de Madame Munongo. En effet, Vital Kamerhe et Dominique Munongo ont démissionné ce lundi 22 septembre de leurs fonctions. C'était devant la conférence des présidents. Les présidents de l'Assemblée nationale et la rapporteuse adjointe de cette institution ont annoncé leur démission peu avant la plénière convoquée pour examiner les pétitions visant leur destitution, ainsi que celle des trois membres du bureau accusés de mauvaise gestion de la chambre de basse du Parlement. Prenant la parole devant la plénière, Vital Kamerhe a dénoncé des irrégularités dans la pétition contre lui, tout en rappelant qu'il a œuvré dans l'alternance pacifique dans les pays en soutenant Félix Tshisekedi. Que pensez-vous de ces démissions? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs de ce jour. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 099 706 80 79 099 706 80 79. Debs Evita est à la mise en onde de ce magazine avec Patrick Kiasongwa qui assure le live de cette émission. Julie Fezabongonda en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience
qu'il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Parole aux auditeurs. Merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook, aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui de la démission ce lundi 22 septembre de Vital Kamerhe en tant que président de l'Assemblée nationale et de Madame Dominique Munongo en tant que rapporteuse adjointe de cette institution. Et pour échanger sur ce sujet, nous allons recevoir, il devait déjà être au studio, mais je crois qu'il va commencer en ligne. Christian Moleka, il est analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC Dipol en sigle. Bonjour Christian Moleka.
Bonjour Guy Maté.
Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, on sait que ces personnalités, Vital Kamerhe et Madame Dominique Munongo, voilà, vous venez de faire votre entrée ici au studio. Le temps de vous installer. Voilà. Bonjour, une fois de plus.
Bonjour Guy Maté.
Voilà, je disais qu'on savait que ces personnalités, Vital Kamerhe et Madame Dominique Munongo, étaient visées par une pétition, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent démissionner. Et à votre avis, cette démission est-elle, sont-elles une surprise ou bien c'était prévisible?
Je peux dire les deux parce que. On a beaucoup, certainement, à l'image, le Vital Kamerhe à l'époque PPRD, qui a été combatif, qui a refusé de démissionner et qui a même contraint à l'époque à tout le bureau de démissionner. Et beaucoup espéraient de le voir mener jusqu'au bout cette bataille-là. Je crois que les signaux, notamment au niveau de la commission spéciale, ont démontré qu'il n'avait très peu de chances de gagner et peut-être pour éviter une exécution publique qui aurait pu conduire à son émulation, il a fait le choix de démissionner.
Voilà, justement, on l'a vu aller jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Il a attendu jusqu'à la fin de ces processus, les jours où était prévue l'audition du rapport de la commission spéciale. C'est ces jours-là qu'il a démissionné. Pourquoi il a choisi de le faire les derniers jours?
Bon, on peut prendre deux hypothèses. La première, c'est qu'il y avait un travail souterrain qui se mettait en place, qui se faisait diplomatique, que ce soit au niveau de son parti pour essayer de trouver des voies d'entente. Cette solution n'a pas apporté ses fruits. Deuxièmement, c'est que stratégiquement, il a voulu aller jusqu'au bout de la logique pour montrer que c'était une forme de combat contre sa personne. Et si vous suivez son discours de démission, il a relevé qu'effectivement c'était un blocage contre un processus contre sa personne considéré comme blocage, et donc il a voulu conduire jusqu'au bout pour se présenter quelque part en victime et essayer de construire en même temps un discours politique autour le rassembleur, cette femme comme à l'époque de Salomon qui fait preuve de sagesse, qui refuse de diviser le parlement et qui sort par la grande porte. Il a joué sa carte pour transformer ce qui était un processus pour l'exécution politique à un acte politique où il sort par la grande porte. C'était juste une stratégie.
Voilà, pour ce qui est de Vital Kamerhe, on n'a pas entendu, n'est-ce pas, les dirigeants ou les présidiums de l'Union Sacrée tenter de calmer la situation. À votre avis, quel pourrait avoir été le rôle qu'auraient joué, n'est-ce pas, les présidiums de l'Union Sacrée dans ces jeux politiques?
Bon, déjà, le président est très divisé. Quand vous regardez la dernière organisation de l'Union Sacrée, elle a affaibli pratiquement le président dans l'ancien format. Vous aviez un président à 6 avec des grosses têtes, si on peut l'appeler comme ça, qui a été fondu à un président large avec des forces indépendantes et qui a donc perdu sa consistance. Donc c'était difficile d'avoir aujourd'hui une Union Sacrée qui est même en contestation de l'ordre établi, qui sort d'un congrès fragilisé probablement, prendre position. Après, je crois qu'il y a également un autre signal, c'est que beaucoup ont vu dans la motion ou dans la pétition une démarche claire de l'UDPS. Et donc s'opposer à cette démarche, ce serait s'opposer à la foudre de l'UDPS. Quand on voit comment cela s'est construit avec une motion venant d'un député d'un UDPS, du président d'une commission UDPS, donc on a vite senti, malgré le silence du président, que c'était vraiment un règlement de compte entre UDPS et UNC. Et donc certains ont préféré ne pas entrer dans ces combats-là plutôt que de s'exposer également à la colère du parti présidentiel.
Voilà. Après sa démission, on a entendu Vital Kamerhe parler. Il a d'abord commencé par dénoncer, n'est-ce pas, des irrégularités dans sa pétition. Ensuite, il a rappelé qu'il a œuvré dans l'alternance pacifique dans ses pays en soutenant le président Félix Tshisekedi. Quel sens peut-on donner à cette communication?
Communication de victimisation, c'est-à-dire montrer au fait que la procédure était irrégulière, mais c'est lui l'homme républicain. Il dit qu'il est dans le camp de la République, donc c'est lui les républicains, malgré les irrégularités, malgré le fait qu'il y avait des risques de clivage, il est resté républicain, il est resté le pacificateur, c'est lui qui veut la paix, qui veut la cohésion, et donc il se construit toujours ce narratif-là pour tirer le bénéfice politique de ce qui est en principe une exécution politique. Et donc il a su, par sa communication, par son positionnement, construire un narratif qui fait de lui à la fois victime, mais également c'est lui qui sauve la crise au Parlement pour éviter l'éclatement et qui sort un peu en héros alors qu'on le prédisposait à l'abattoir. Donc ce n'est que stratégie de communication pour tirer un gain politique de ce qui est la fin d'un combat.
Et Madame Dominique Mungulongo, elle, a préféré garder silence. Vous l'avez dit la fois passée, n'est pas parlé, c'est aussi communiqué. Quelle interprétation on peut donner à ce silence de Madame Dominique Mungulongo?
Je crois qu'elle a compris aussi que les jeux étaient joués. Et déjà, elle est arrivée avec grande difficulté à ce poste-là, qui est réservé à l'opposition, et qu'il était en balotage à l'époque avec certains Costa Mutamba, qui était soutenu d'ailleurs de certaine manière, qui a obtenu beaucoup de voix. Et donc, le fait que le Katumbi aujourd'hui soit également sous les mires du régime, fait d'elle également une cible. Et donc elle a compris qu'elle n'avait pas d'avenir, et plutôt que de tomber dans l'humiliation d'un vote qui allait forcément la fragiliser, elle a préféré également profiter de la dynamique Kamerhe et partir.
Et après cette démission de Vital Kamerhe, quels sont les scénarios possibles par rapport à son avenir politique?
Le scénario le plus probable, c'est qu'il a, dans son discours, en tout cas, de manière solennelle, il a dit qu'il restait loyal au président. C'est le côté dit, mais quels sont les non-dits? Il s'est dit victime, il s'est dit républicain, il s'est dit dans le camp de la République. C'est beaucoup des signaux qu'il faudra observer à l'avenir. Est-ce qu'il va fondamentalement rester dans l'Union Sacrée c'est possible à court terme, parce que est-ce qu'il y a des possibilités qu'il y ait des procédures judiciaires à son encontre? Il le sait, le dossier Sanjo ne s'est jamais réellement clôturé, qui peut s'ouvrir à tout moment, et donc il y a une forme d'épée sur sa tête qui va limiter sa possibilité à aller directement vers l'opposition. Mais c'est un acteur politique qui ne va pas mourir, qui attendra soit l'avènement d'un dialogue, soit d'un processus politique à venir pour se repositionner dans le sens qui lui sera favorable.
Alors là, on n'est pas en train de mettre en place des conditions d'une session parlementaire qui ne va pas, enfin, ou qui va se terminer sans qu'on puisse adopter le budget.
Probablement qu'on adoptera le budget, parce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement sans budget. Mais on l'adoptera probablement à la fin, sans débat de fond, avec un climat qui sera
bassin. On peut convoquer une session extraordinaire.
Je ne pense pas. L'agenda ne va simplement changer. On va prioriser l'installation d'un nouveau président. Et donc, ça va diviser l'Union sacrée autour de qui prend le Sprapotin. Ça revient à l'UDPS ou un parti allié. Est-ce qu'on donne à la zone Kivu ou on donne à la zone Équateur? Et quelle sera la personne qui correspondra le mieux à diriger ce bureau? Donc on va encore prendre pratiquement un mois à discuter de tout ça, et le budget sera relégué après. Mais c'est pas uniquement le budget. Vous avez un parlement qui n'a pas ratifié l'accord de Washington, alors que l'accord a été voté au moment où le parlement partait en vacances, et qu'il n'y a pas de débat au niveau du parlement sur le processus de paix, qu'il n'y a pas de débat sur l'avenir de l'état de siège, alors qu'en Ituri il y a les ADF qui ont tué une centaine de personnes il y a pas très longtemps, y compris à Béni. Et au même moment, vous avez les armes qui reprennent, un processus de Doha qui est pratiquement en panne, et probablement des combats qui reprennent au sud Kivu. On l'a vu à Walungu, à Mwenga, à Walikale, des combats qui reprennent. Donc, au lieu d'un parlement qui ne va pas se concentrer sur les questions des fonds, et qui va probablement faire le service minimum, installer un bureau, revenir sur le budget très rapidement et l'envoyer au Sénat, et bien voilà, sans débat de fond et de profondeur.
Alors, après cette démission de Vital Kamerhe, comment vous entrevoyez l'avenir de l'Union sacrée de la Nation?
Trouble, parce que vous avez déjà une union qui depuis 2023 est sortie des élections avec des difficultés. Il faut se rappeler la séquence de la formation du gouvernement où certains partis ont contesté justement le présidium qui serait attribué les gros des postes et qui aurait travaillé pour lui-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette réforme du présidium s'est mise en œuvre, parce qu'il y avait une contestation en interne. La tentative de réorganiser a créé des tensions autour des Mbata, avec un groupe pour un groupe contre. Les présidents ont tenté de les mettre ensemble autour d'un congrès, mais il y a encore cette fragilité interne. À s'ajoute aujourd'hui l'affaire Kamerhe. Kamerhe, c'est pas n'importe quel allié, c'était l'allié du premier temps, du premier jour. C'est celui qui, en 2018, et il l'a rappelé dans son discours, au moment où ils étaient très peu à croire au président, il a été des premiers à l'avoir accompagné, et d'autres ont rejoint. Clin d'œil, évidemment, à Bindoulé, et tout le reste, les Jean-Pierre Bemba qui sont venus après. Et donc, c'est une remise en question d'un allié fondamental. Et je crois que les autres alliés observent, dans une logique où 2028, peut-être, s'il n'y a pas un changement constitutionnel, la fin du mandat du président. Et donc, tous les alliés ambitieux sont en train de voir la mise à mort d'un allié avec lequel l'UDPS avait signé la possibilité d'alternance de mandat. Et donc, ils vont être très circonspects, ils resteront dans leur méfiance, et donc on a créé les conditions des méfiances plus profondes au sein de l'Union sacrée. Après, on sait que la guerre de succession, ça a toujours été un moment de friction, parce qu'au Congo, tout le monde est ambitieux, on va encore réveiller les ambitions, diviser les gens autour des postes, et c'est encore suffisamment d'éléments de tension au sein d'une même famille politique.
L'allié principal du chef de l'État, comment vous expliquez l'essor qui est le sien aujourd'hui?
Très complexe. Déjà, c'est une alliance qui, dès le départ, a posé beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que l'alliance FCC Cash, plutôt, l'alliance Fativite, comme on l'a appelé à l'époque, était Kamerhe prenait la primature, le président prenait la présidence de la République.
Avec l'accord de
Nairobi. Malheureusement, avec la majorité allant au PPRD, Vital Kamerhe n'a pas pu prendre l'Assemblée ou la primature. Il s'est retrouvé au cabinet présidentiel. Et c'est là que les problèmes ont commencé entre lui et certains caciques du l'UDPS, qui n'ont jamais toléré son leadership, sa proximité avec le président, son positionnement politique, et l'affaire 100 jours est justement l'illustration de cette tension autour du président et des factions entre Kamerhe et certains caciques. Cette bataille n'est jamais terminée, quelle que soit sa résurrection politique, après sa sortie de prison, sa prise du bureau, on a senti toujours cette méfiance croissante entre un certain groupe de caciques et lui. Et depuis le début de l'année 2024, beaucoup des faits ont conforté cette méfiance-là. Que ce soit sa position sur la réforme constitutionnelle, sa position sur le processus de guerre et les processus de paix, son appel au dialogue au moment où tout le gouvernement se refusait à tout processus de paix, et dernièrement, peut-être la goutte qui a le plus fâché, son passage en Afrique du Sud, officiellement pour des raisons de santé, quand le pouvoir était vent debout contre la fondation de Thabo Mbeki qui convoquait la conférence de sécurité. Je crois qu'il a suffisamment réuni des éléments de méfiance et il était peut-être pour certains c'était peut-être la goutte de trop et il fallait le faire partir. Tout ça avec en toile de fond probablement le retour d'un débat constitutionnel au niveau du Parlement, un président plus malléable serait peut-être un président idéal que celui qui joue sa carte, propre carte politique.
Est-il possible d'envisager aussi un Kamere opposant au régime de Félix Tshisekedi?
C'est possible, mais aujourd'hui, il a peut-être une faiblesse, c'est qu'il y a un levier contre lui, qui est un levier judiciaire. Et donc, ce levier-là va réduire ses marges de manœuvre, si tant est qu'il se décide alors forcément à s'y opposer. Mais il y a un levier judiciaire contre lui, il peut s'y poser des procès, comme pour Matata Ponyo, et qui ferait qu'il va perdre un peu de son autonomie. Mais je crois qu'il est suffisamment malin pour se rappeler ce qu'il a vécu en 2011, en 2010 plutôt avec le PPRD, et qu'il va jouer une fausse présence au sein de l'Union Sacrée, attendra une bonne possibilité, soit des dialogues, pour se repositionner dans les dialogues. On l'a vu par le PCR qu'il a lancé au début de mandat, en se repositionnant pour les dialogues, être une troisième voie à côté de l'Union Sacrée et de l'opposition, ou alors il attendra à un moment, il parle du camp républicain, pour lancer une dynamique républicaine, probablement autour de la réforme constitutionnelle.
Et donc, ceux qui l'ont visé ont choisi les bons moments, les moments où il est attaquable, les moments où il est fragile.
Bon, moi, je ne pense pas. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a davantage d'agressivité que de tactique. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'Union Sacrée a un peu de difficulté à trouver quelqu'un pour remplacer Kamere. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait dans la précipitation, forcément dans... avec beaucoup d'agressivité, mais qui ne s'inscrit pas dans une politique à long terme. Parce que quand vous vous fragilisez maintenant, au moment où vous êtes en train de parler cohésion, et au moment où on appelle à un dialogue, vous perdez des alliés qui pourront pour vous être de point d'épine. Parce qu'un Kamere politique, il va pas disparaître. Il va se repositionner pour le dialogue, et ce ne sera pas forcément dans le sens de l'Union Sacrée.
Est-ce que ça peut créer une sorte de fissure entre l'Est et l'Ouest?
À ce stade, non, mais ça va conforter encore la perception de ceux qui pensent que le pouvoir est anti-swahilophone. C'est un narratif que certains sont en train de construire et qui justifie les attaques vers Kinshasa. Et je crois que dans la démarche Kamere, ils ont peut-être eux-mêmes renforcé cette dynamique-là. Après, tout dépendra de qui va le remplacer. Si on remplace par quelqu'un du Grand Kivu, on aura réduit cette communication-là. Si on remplace par quelqu'un de l'espace Kasaï, là, par exemple, on aura conforté le fait que le pouvoir se referme autour de lui-même et qu'il exclut d'autres communautés. Tout dépendra de la réponse politique qu'on donnera à l'après-Kamere.
Et donc, le pouvoir a intérêt à remplacer Kamere par quelqu'un qui vient de la partie est du pays?
Oui, si on veut garder les équilibres actuels, on peut remplacer par quelqu'un de l'espace Grand Kivu, parce que c'est la géopolitique gouvernementale. On a un premier ministre qui est de l'espace Nekongo, on a un président qui est de l'espace Kasaï, on a au Sénat quelqu'un qui est de l'espace Katanga, et donc... ce serait mieux équilibré de ramener quelqu'un de l'espace Grand Kivu. À supposer qu'on change le bureau, on change les présidents, ça va impacter tous les bureaux. Vous avez un premier vice-président qui est l'espace Kasaï, un deuxième qui est l'espace Nekongo. Si vous changez l'ordre, ça va fortement impacter d'autres. Vous avez une jolie qui est l'espace Équateur. Donc si vous avez un président de l'espace Grand Équateur, vous aurez deux personnes de l'espace Grand Équateur au bureau avec une jolie. Si vous mettez un président de l'espace Kasaï, vous aurez deux personnes de l'espace Kasaï avec Chulumbai. Donc vous voyez, cet équilibre-là, il faudra également le retoucher. Sinon, ça pourra reconduire à un changement total du bureau.
Alors, que répondez-vous à cette opinion selon laquelle tout a été fait pour permettre au deuxième vice-président Mbosso de pouvoir revenir à la tête du perchoir?
C'est une hypothèse qui se de plus en plus rencontre, mais ce sera très difficile. Je vois très mal déjà. Mbosso n'a plus le même levier qu'il avait en 2023. En 2023, il faut se rappeler que l'Union Sacrée s'est construite avec une grande majorité des transhumants du PPRD. Ou du FCC. Et donc ces transhumants qui étaient majoritaires, c'est à ce titre-là qu'on leur a plus ou moins donné le bureau de l'Assemblée parce qu'ils étaient majoritaires, ces transhumants-là. Et donc on peut prendre Mbosso comme faisant partie de ceux qui ont fédéré les transhumants du FCC, qui ont rejoint l'UDPS pour construire la nouvelle Union sacrée. Aujourd'hui, en termes de poids numérique, les transhumants FCC ont perdu en influence. Donc je vois très mal l'UDPS redonner le bureau à Mbosso. Sauf si on joue la carte d'un président fragile, comme en 2023, qui a très peu de lus et qui dépendra donc de l'UDPS et de ses alliés pour tenir les bureaux, pour faire passer par exemple des réformes sensibles. Donc à cette hypothèse-là, oui, mais je vois très mal aujourd'hui Mbosso revenir à la tête du bureau de l'Assemblée.
Merci, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la démission ce lundi 22 septembre de Vital Kamerhe en tant que président de l'Assemblée nationale et de Madame Dominique Mounongo en tant que rapporteuse adjointe de cette institution. On en parle avec notre invité, Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC Dipol en sigle. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 099 706 80 79, 099 706 80 79.
Parole aux auditeurs.
Voilà, notre standard, on nous dit qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent intervenir, donc nous allons commencer par Mahagi dans la province de l'Ituri, où nous attend Sylvain Aguenoff. Sylvain Aguenoff, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on vous attend, on vous écoute.
Je voudrais saluer mon frère qui est au studio.
Bonjour Sylvain Aguenoff.
Monsieur Oui, merci. Monsieur Marcel, c'est très étonnant.
C'est Monsieur Guy Maté.
Excusez-moi. Je ne rentre pas sur déjà des analyses pertinentes de mon frère qui est avec vous au studio. Mais tout ce que je constate, c'est que cette classe politique congolaise saute la priorité pour des questions de repositionnement. Et ça, c'est quand même scandaleux. Les accords signés entre Félix et Vital Kamerhe, moi, je n'en parle pas aujourd'hui. Je regarde l'avenir de ce pays. Au regard de la situation actuelle, quel devait être l'essence de l'homme politique congolais? Est-ce que c'est une question de la course à la vie personnelle ou c'est une question de la vie de la nation? Puisque dans la situation où les institutions politiques se déstabilisent par des manœuvres politiciennes, malheureusement dans les mêmes camps politiques d'un président de la République, je me dis comment est-ce que nous allons coudre les différents problèmes qui déchirent l'habit du Congo. Donc, je suis totalement décis par les acteurs de cette Assemblée nationale et j'ai comme l'impression que la responsabilité a quitté la scène politique. Vous avez posé une question très capitale. Et ça, je conseille à mon frère Vital Kamerhe s'il m'écoute. En politique, bien que l'hypocrisie est acceptée, mais il faut savoir tirer les conséquences de ces actes. Mon frère qui est au studio soulève la question peut-être de quelques problèmes en justice contre mon grand frère Vital Kamerhe. Ça peut être vrai. Mais moi, je dis aujourd'hui, qui est propre dans la République démocratique du Congo? C'est vrai, ceux qui ont la puissance de tirer la corde peuvent encore être libres. Mais demain, c'est comme l'impression que beaucoup vont faire encore la prison, comme ceux qui ont été hier à la gestion de la sauce publique le font aujourd'hui. Ce qui vient d'être fait par l'IDPS est tout simplement une trahison contre leurs alliés. Je ne suis pas de l'INC. Mais j'allais inviter Vital Kamerhe déjà à réfléchir et venir avec nous à 2028, puisque nous on prépare l'après Félix Tshisekedi.
Vous, c'est M quoi? Et
nous sommes un mouvement citoyen, l'Alliance citoyenne pour le réveil du Congo, qui va regrouper toutes les forces sociales de la République démocratique du Congo. Nous l'avons vu en France, quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir avec un mouvement populaire. C'est ce que nous préparons pour le Congo et nous invitons ce Vital Kamerhe à venir vite vers nous.
Merci. Merci.
Je voudrais terminer en disant ceci.
Allez-y rapidement.
Dimanté. Je voudrais dire ceci. Tout en remerciant la radio. Ce qui va arriver au Congo aujourd'hui ou demain, l'IDPS va tirer toutes les conséquences. Et moi, j'invite tous les jeunes, tous les Congolais, à observer cette classe politique sans complaisance. Et aussi, à un moment donné, nous tirerons les conséquences de la déstabilisation de ces pays. Surtout que l'Est est dipé. Moi, je n'ai pas la partie de l'Est. Je suis à territoire de Mali. Rien ne marche. Je m'arrête là.
Merci Sylvain, je rappelle que vous appelez depuis la ville de Mahagi dans l'Ituri. Nous quittons l'Ituri pour Tanganyika et là nous allons à Kalemi avec Eri Mirindi qui nous attend, il est conseiller communal. Monsieur le conseiller communal Eri Mirindi, bonjour. Monsieur Eric Eri Mirindi, conseiller communal, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment, il n'est plus là. Et là, nous quittons la RDC pour l'Autriche, plus particulièrement à Vienne, où nous attend Franck. Franck, bonjour.
Bonjour, Monsieur Guy. Bonjour à l'invité qui est avec vous au studio. Bonjour à tous les amis de la radio.
Bonjour, Franck.
Allez-y, Franck.
Oui, merci beaucoup. Je fais mienne toutes les analyses et objections pertinentes de l'invité au studio. Parce que je crois qu'à moins qu'on soit très peu averti pour se faire des idées superficielles, mais tout est lié sur deux schémas. Pour les pétitionnaires, il s'agit de l'aboutissement d'une soi-disant démarche ou procédure démocratique pour défenestrer quelqu'un qui peut-être semblerait gênant à un moment. Puis pour les autres, c'est l'aboutissement des calculs et stratégies politiques en vue de se repositionner pour les échéances de 2028 et avec tout ce qui se schématise dialogue pendant les dialogues et après. Mais si nous devons nous prononcer comme citoyens congolais, au lieu de nous demander en quoi tout ce qui se passe au Parlement profiterait au peuple. C'est là la plus grande difficulté parce que une des difficultés par rapport à la mentalité congolaise, par rapport à la culture citoyenne de nos compatriotes, ils acceptent chaque fois d'être utilisés, d'être utilisés comme des trempeurs, comme des marchepieds. On met sur leur actif des situations qui ne leur profitent à rien. Et quand ça ne marche pas, ils commencent encore à recourir eux-mêmes. Et puis, à nos hommes politiques, je crois qu'ils doivent aussi seulement se rappeler que la politique ou la réelle politique, c'est comme le jeu des cartes. Et la résistance d'un grand baobab, c'est d'abord autour de ses racines et non seulement et d'abord autour de feuilles et de fleurs. Et il y a un sociologue, Anna Arendt, une philosophe allemande d'origine juive qui disait l'histoire de chaque peuple, c'est la réelle unité de mesure. Donc, on peut penser et tromper, distraire un peuple pour un moment, mais on ne le ferait pas pour une éternité. Donc, on est en train de comprendre par où on est en train de nous mener, mais malheureusement, nous devons seulement nous demander si nous avons des hommes politiques qui comprendront réellement les tenants et les aboutissants de ce qui se passe pour se situer convenablement. Parce qu'il faut toujours éviter de creuser des trous profonds pour quelqu'un. Après lui, vous pouvez vous-même vous retrouver dedans. Et la fois passée, je crois, je vous disais que dans le système de la criminologie, quand vous venez d'opérer quelque part avec quelqu'un, le coup a abouti. Du coup, votre allié devient encore un ennemi. Donc, vous devez tout faire pour le déstabiliser. Et on va réussite en déstabilisation, mais finalement, c'est vous-même, les tireurs de ficelle, qui resterez la dernière victime. Alors, on ne peut pas penser être là comme tireur de ficelle pour seulement détruire, et on ne peut jamais faire développer tout un grand pays comme la RDC en se servant de contours superficiels, des alibis, des prétextes, comme des vraies raisons de notre retard. Donc, nous devons d'abord refaire notre mentalité politique, notre conception de la politique et chercher encore à voir des hommes politiques qui ont aussi le sens de leur dignité. Merci. Mais si on se sert seulement des gens qui n'ont que des alibis, Je crois que c'est le peuple qui n'aura qu'à pleurer demain après demain jusqu'à l'éternité. Je crois m'arrêter là.
Merci Franck, depuis Vienne en Autriche. On revient en RDC et là nous allons dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, où Daniel Bukassa nous attend. Daniel Bukassa, bonjour.
Bonjour Dimaté.
Vous avez la parole, Daniel Bukassa.
Ah ok, merci Radio Capi de nous accorder l'opportunité d'apporter notre point de vue sur les sujets qui sont abordés ce matin. En fait, je voulais dire déjà tout au début de je n'étais pas d'accord avec la venue de M. Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale comme président. Vous savez, il faut pas faire la politique politicienne comme on l'a toujours dit. Moi, j'ai trouvé que M. Vital, parce que déjà dès le départ, il était contesté, il n'était pas voulu comme président, mais il a forcé les choses pour arriver là. Et vous sentiez déjà que dès au départ, c'est un président qui était contesté par la majorité, qui n'était pas voulu. Et il a voulu être là, pas pour les objectifs politiques, mais pour son honneur personnel. C'est ce qui l'a amené à être là. Pendant que sur le plan politique, vous allez voir que il n'a jamais partagé la même politique avec le président de la République. Vous allez vous rendre compte, si nous prenons l'exemple de la guerre à laquelle nous sommes en train de faire face, vous allez vous rendre compte que chaque fois M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, avait toujours un point de vue contraire à celui du président de la République. Et il se permettait même de le faire devant l'Assemblée, dans le plénière, il se permettait de contredire le président de la République. Vous voyez déjà que, à partir de ce moment-là, ça n'allait pas. Vous allez voir déjà qu'il était même contesté, même parmi la population. La population n'acceptait pas le fait que le président de l'Assemblée avait toujours des points de vue contraires au président de la République. Vous voyez un peu ça.
Merci.
Donc moi, pour ma part, je suis déçu de cette de sa démission, mais je trouve que Vital Kamerhe ne doit plus être en coalition avec le président de la République à partir du moment où, politiquement, ils n'ont pas une même vision. Nous sentons beaucoup plus que M. Vital Kamerhe envisage de devenir président de la République. Mais il est là, il est là pour son honneur. Il est là, mais en vérité, il ne partage pas une même politique.
Merci, Daniel Bukassa. On a compris.
Alors, à ce moment-là, il est impossible pour deux personnes qui ne partagent pas une même vision politiquement d'être ensemble.
Merci. Je rappelle que vous appelez depuis la ville de Lubumbashi. On reste à Lubumbashi avec Maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia, bonjour.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio.
Bonjour Maître Patrick Odia.
Allez-y Maître Patrick.
Oui, je pense qu'avec Monsieur Christian Moleka, nous avons également analysé cette question, la fin passée du G et de l'enjeu. Alors nous y voici aujourd'hui de la démission, et cette démission révèle des choses, ou peut-être étudiée par des éléments. Le premier élément d'abord, c'est la symbolique imagée d'un homme d'État qui respecte les institutions, qui veille la stabilité des institutions également, et qui tient au respect des règles procédurales, parlementaires également, et qui veut sauver son honneur. Ça, c'est le premier élément, c'est la symbolique imagée. Alors, la deuxième également symbolique, ou les deuxièmes éléments importants également, c'est entre humiliation et entre positionnement stratégique également. D'un camp, on pense que Kamerhe est humilié, mais de lui-même, au fond de lui, il pense réellement que je démissionne pour m'aligner stratégiquement. Parce qu'il a rappelé également dans sa lettre ou dans son discours également qu'il était cofondateur du régime. Et à ce titre, il a même félicité les autres qui l'ont rejoint en disant qu'il avait raison d'avoir rejoint Tshisekedi et que les autres étaient en retard. Donc tôt ou tard, les autres comprendront que lui avait raison. Donc, cette démission démontre des choses à la fois. Donc la symbolique imagée d'un homme d'État, mais d'autres également, d'un autre côté également, un peu cette humiliation également. Mais comme conséquence politique, comme Christian Moleka l'a toujours dit, je pense qu'il se repositionnera d'ici. Et là, c'est à lui-même de jouer la carte également. Le chef de l'État l'a dit également hier, et s'il veut quitter, tant pis, mais il le considère comme un élément d'État et un
allié et tout ça. Mais sur caméra, désormais, il va jouer une opposition indirecte, s'il faut le dire également. Et parce qu'il était un élément gênant, on l'essaye tous pour la révision de la Constitution, pour le positionnement également de 2028. Et vous pouvez ne voir que lors de la rencontre du secrétaire général de l'INC avec Monsieur Augustin Kabouy également, c'est ce qu'ils se sont dit et les rapports qui ont été donnés, vous pouvez voir qu'il y a une guerre ou il y a des guerres de leadership de 2028. Et je pense qu'à ce moment, moi je conseillerais à Monsieur Vital Kamerhe de tirer toutes les conséquences, soit d'aller en opposition, que de brader une loyauté symbolique imagée, alors qu'au fond, il y a des divergences institutionnelles sur le plan de la gouvernance, sur le plan de l'idéologie politique, sur le plan même de la vision, de la politique étrangère également. Il y a beaucoup de divergences entre et ces deux cadres également. Le régime en place, c'est ce qu'est dit M. Vital Kamerhe. Alors, qu'est-ce que la jeunesse doit tirer? Il y a besoin ou nécessité d'un renouvellement de la classe politique. Parce que les mêmes personnes reviendront sous d'autres casquettes également, avec les mêmes griefs, alors qu'on a tenté de résoudre la question procédurale, mais les fonds, les griefs qui ont été portés contre lui, Guy Maté, n'ont pas été résolus, notamment la mauvaise gouvernance, notamment les votes de loi par, c'est pas moi, par quelle procédure active également. Donc toutes ces questions de fonds, je pense qu'elles peuvent servir pour qu'il y ait un renouvellement au niveau de l'Assemblée nationale également. C'est quelqu'un qui peut comprendre ces enjeux et ces jeux pour permettre qu'il n'y ait pas la gouvernance aussi opaque, mais aussi la stabilité des institutions. À la jeunesse et au Parlement, je pense que les députés doivent être très sérieux de ce qu'ils font. Si réellement ils l'ont fait parce que Gamera a mal géré, a mal gouverné également l'Assemblée nationale, qu'ils doivent aussi avoir le même courage d'interpeller les ministres pour gouverner au profit du peuple ou du petit peuple que nous sommes.
Merci, voilà, on
de manière symbolique, Patrick, ce que je peux dire par rapport à cette thématique.
Voilà, nous quittons le Haut-Katanga pour les lois là-bas, où Ignace Ndala nous attend depuis la ville de Kolwezi. Ignace Ndala, bonjour. Ignace Ndala, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment il n'est plus là. Et Christian Moleka, est-ce que vous pouvez réagir à toutes ces réflexions?
Oui, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites par les différents intervenants. Je crois que notre ami Daniel, qui insiste sur le fait, Patrick l'a également appuyé sur le fait qu'il y avait beaucoup de points de divergence sur la gouvernance politique entre Kamerhe et les présidents.
Et que la cohabitation entre les personnalités serait impossible.
Oui, mais moi je dirais, ce qu'on attend des présidents de l'Assemblée, c'est pas qu'ils s'alignent sur la position des présidents. Sinon, on n'a pas séparation de pouvoir. Sinon, on veut construire un système qui repose sur la seule volonté du chef, et tous les autres corps doivent s'y aligner. C'est pas comme ça que fonctionne la démocratie. Le Parlement, en tant que pouvoir, devrait s'opposer à l'exécutif parce qu'il a ce pouvoir de contrôle.
C'est pourquoi Franck Devienne dit que nous devons repenser notre conception, n'est-ce pas?
Le problème, c'est que je crois qu'il y a fondamentalement deux dynamiques qui charrient un peu le régime aujourd'hui. Le premier, c'est la conquête permanente. Depuis 2018, le pouvoir est en conquête. En conquête contre les FCC, en conquête pour reprendre le contrôle des services de sécurité de l'armée, en conquête pour avoir un deuxième mandat. Maintenant, au sein de la même majorité, la conquête se poursuit à travers des repositionnements. La deuxième dynamique, c'est qu'on travaille trop à renforcer le pouvoir du président au détriment de l'équilibre institutionnel. Et cette dynamique-là ne va pas nous aider à consolider notre démocratie. On ne gagne pas en fragilisant les deux institutions pour renforcer uniquement l'institution président. On ne peut pas attendre du président du Parlement ou d'un Parlement qu'il s'aligne sous les positions du président. On attend de l'exécutif, y compris au président, de défendre sa position au niveau du Parlement et que les députés le votent. C'est ça la logique démocratique même. Et je crois que c'est même une bonne chose que nous ayons un président du Parlement qui, à un moment donné, peut tenir une ligne qui s'oppose en termes d'équilibre de pouvoir avec l'exécutif. On a vu, par exemple, à l'époque, dans un passé récent, un Kengo Adondo qui était à tête du Sénat, qui ne s'alignait pas totalement sur la position du FCC. Rappelez-vous le débat 2015 autour de la Constitution. On a eu un président du Sénat qui a tenu une ligne qui s'opposait pratiquement à la dynamique qu'on avait à l'Assemblée nationale.
Et le régime avait reculé. Donc, et lui avait été maintenu, n'est-ce pas?
Et je crois que c'est pour l'intérêt également du régime d'avoir des garde-fous personnels à travers un équilibre qui peut se construire entre le Parlement et l'exécutif. Qu'on ait un Parlement qui se couche devant l'exécutif, ce n'est pas un mécanisme de contrôle qui va consolider notre démocratie. Donc cette tendance à vouloir totalement avoir un Parlement qui se couche, et à chaque fois que quelqu'un tiendrait une parole parce qu'il n'aura pas condamné l'agression, parce qu'on n'aura pas trouvé clair sa position sur le dialogue. Et donc, à chaque fois qu'on fera cette forme de chasse aux sorcières, en pensant aider les présidents, on l'enfermerait dans une logique de monolithisme du pouvoir, qui à fin ne va pas l'aider parce qu'il va perdre tous les alliés. Et un pays comme le Congo, on le gouverne pas seul. On le gouverne avec des alliés, et quand on s'isole, on s'affaiblit et on perd les capacités de fédérer. En même temps, lorsqu'on crée des frustrations, on alimente l'opposition, parce que ceux qui vont se frustrer pourront rejoindre la dynamique de l'opposition et on donne de la force à l'opposition pour combattre le régime.
Merci, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la démission ce lundi 22 septembre de Vital Kamerhe en tant que président de l'Assemblée nationale et de Madame Dominique Moudongo en tant que rapporteuse adjointe de cette institution. Et on en parle avec notre invité Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC Dipol en sigle. Si vous voulez continuer à réagir, vous pouvez appeler au 099 706 80 79.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous allons lire quelques réactions dans ces condensés, une production de Julie Fezabongunda. Les réactions des auditeurs à la démission de Vital Kamerhe reflètent la diversité des opinions sur la crise politique actuelle en RDC. Les réactions favorables saluent la démission de Vital Kamerhe comme un acte de responsabilité, d'honneur et de sagesse dans un contexte politique difficile. Elles reconnaissent ses contributions passées, même en dépit de certaines failles, et soulignent que ce départ est une étape qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre politique plus transparent et respectueux des institutions. Ces voix appellent aussi à une gouvernance au service du peuple et à une démocratie réellement mature. Les personnes qui soutiennent cette position, c'est Maître Amani Luamba, depuis Bukavu, John Numbi Omande, depuis Kindu Maniema, Toumaïni Adrien, depuis Lubumbashi, ingénieur Mosse Bahati, depuis Bukavu, Freddy Mubenga, depuis Likasi, Baraka Godefroy, depuis la province de l'Ituri, Aspik Fundi Viatu depuis Kalemi, Loaboshi Kabugi depuis Goma au Nord Kivu, ingénieur Caleb Kambale Bindu depuis la province de l'Ituri, Pasteur Stéphane depuis Dar es Salaam en Tanzanie, Gilbert Wakasi depuis Goma au Nord Kivu. Alors les positions défavorables, les critiques dénoncent l'instabilité politique générée par la démission, la mauvaise gestion persistante et les luttes des pouvoirs au sein de l'Assemblée nationale. Elles expriment un pessimisme quant à l'avenir de la paix et de la sécurité, mettant en cause la responsabilité des dirigeants actuels, y compris les conseillers du président Tshisekedi. Certains perçoivent ces événements comme une fracture au sein de l'Union sacrée et une régression de la stabilité nationale. Les personnes qui soutiennent cette position, c'est Christian Bagenda Banga, Steve Bao depuis Bukavu, Enoch Mabika, Georges Kilangalanga depuis Bounia, François Okunji depuis, je crois qu'il l'appelle de Bounia aussi, et Anatole Moucheshewa, Bukavu, John Numbi, Maniema, Sylvain Agenorf, Mahagi, Gilbert Wakasi, Gaston Gandou depuis Kinshasa, Gombe. La position ou les positions neutres, les réactions neutres expriment une attente prudente. Elles reconnaissent la gravité de la situation sans prendre clairement parti, soulignant l'importance de comprendre les enjeux plus larges comme la gouvernance, la stabilité et la politique partisane. Elles attendent des actions concrètes et une clarification des conséquences de cette crise institutionnelle pour les pays. Les personnes qui soutiennent cette position, donc les personnes nettes, Christophe Kalenga, Fernando Newa Ilunga, Kalemi, on a dit Kalemi ici, Ignace depuis Kolezi, Guillaume Prakash, Mouloumé Moudéroi, et puis Maître Amani Luamba Shadrach. En conclusion, c'est une question qui vous adressait Christian Moleka. Cette démission signale-t-elle un tournant vers une gouvernance plus responsable ou une nouvelle source d'instabilité pour le pays?
Moi, je crois que je parierais pour l'instabilité, parce que là, on est en train de conforter la fragilité institutionnelle. On a eu un premier mandat marqué par la fragilité institutionnelle, avec changement de majorité au Parlement et des députés consacrés essentiellement sur leur rémunération. On pensait qu'avec ce changement, avec les élections qui ont permis d'avoir une majorité plus large, on aurait de la stabilité. Là, malheureusement, à peine une année, on est encore dans la fragilité institutionnelle. Un nouveau bureau sera élu autour des chantages, probablement des mandats et plutôt des rémunérations. Parce que en toile de fond de ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y avait un débat autour des rémunérations améliorées. Et donc le nouveau bureau qui sera élu sera sous pression pour améliorer les rémunérations des députés. Et donc vous aurez à nouveau un bureau qui serait élu sous chantage des rémunérations et des jeeps. Ça ne va pas conforter une stabilité institutionnelle. Ça n'émet pas au premier plan les priorités des Congolais. Je rappelle qu'on a eu 100 morts à Lubero et à Beni. Des centaines de morts par des accidents dans les voies lacustres. On a l'insécurité en Ituri qui prend pied. On a une guerre qui reprend avec des combats très, 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 très intenses entre les M23 et le gouvernement. Et dans tout ça, la priorité pour les élus, c'est les rémunérations et les jeeps. C'est vraiment un déphasage des priorités des citoyens.
Et en conclusion, que diriez-vous à ceux qui disent que Kamere pourrait rebondir? On sait que quand on n'a pas besoin de lui, on les met à l'écart. Et quand on estime qu'on a besoin de lui, on trouve des formules, n'est-ce pas, pour les blanchir et qu'il peut rebondir à tout moment. Ça sera votre conclusion?
Donc c'était quelqu'un qui nous a dans le passé montré sa capacité à résilier, que ce soit depuis le PPRD, et qui a su quand même à chaque fois tourner en son avantage les mauvais coups du sort. Probablement qu'il va utiliser également ces situations pour rebondir, soit par le dialogue, soit par un repositionnement proche de l'opposition.
Merci, c'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons aussi merci à notre invité Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC du Pôle en sigle. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Debsi Vita qui était à la technique, Paul Obayanyama et Patrick Kiasongwa qui était à la vidéo et Julie Feza Bongonda qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite au programme sur Radio Capi.